Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Ce matin, nouvelle de dernière heure, une entente de principe qui a été conclue entre le gouvernement du Québec et la FIC, la Fédération qui représente des infirmiers et des infirmières. 90% des membres sont des femmes. Donc, une entente qui est intervenue après 16 mois de négociations, 8 jours de grève et plusieurs manifs et autres activités du genre. La présidente de la FIC, Julie Bouchard, dit que le contenu sera débattu au Conseil fédéral aujourd'hui, demain et jeudi. Et il n'y aura pas de commentaires du syndicat. Il y aura des fuites, ça vous pouvez être certain. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences avec les autres ententes signées dans le secteur public, dans le secteur de la santé? Ce serait étonnant, mais il peut y en avoir quand même. Et si c'est adopté par ce Conseil fédéral, ben ce sont les infirmières, les membres, les syndiqués qui vont voter par référendum. Il n'y aura pas de commentaires d'ici là. Alors, c'était quand même une des dernières négociations importantes. C'est maintenant fait. Il y a une entente de principe, mais encore là, on a déjà vu des ententes de principe être rejetées. On peut penser à la Sûreté du Québec. Je vous parlais tantôt de météo, de temps gris. Il y a des chiffres de l'Organisation mondiale de la santé qui ont été publiés au sujet de la qualité de l'air. Et on note qu'il y a à peu près une dizaine de pays où c'est dramatique. On peut penser au Pakistan, l'Inde, où ça s'est détérioré. Et on donne un paquet d'exemples de pollution, de sources de pollution. Et on revient sur le Canada, parce que l'Amérique du Nord, globalement, est un des endroits dans le monde où la qualité de l'air est encore plus qu'acceptable. Sauf que, quand vous aviez le palmarès des villes ou des régions les plus touchées en Amérique du Nord, c'était, et c'est encore aussi, les États du Midwest américain, mais qui sont dépassés par des villes en raison des feux de forêt. Quand vous regardez la superficie des feux au Canada l'an dernier, puis on le sait, là, on est en mode préparation pour la saison des feux de forêt cette année, c'est l'équivalent d'à peu près la moitié du territoire de l'Allemagne. Et ça, c'est un été seulement d'incendies à travers le Canada. Et donc, ça affecte aussi directement la qualité de l'air. On va maintenant passer à un petit tour d'horizon sur les événements de la planète. D'abord, Gaza. Je sais que des experts disent que la famine est imminente, mais dans les faits, les Gazaouis meurent de faim, dans bien des cas, et sont privés d'eau, donc, et de nourriture. Malgré des barges, malgré des convois qui sont souvent interceptés, ça se rend difficilement. Il y a beaucoup d'agressivité parce qu'on veut mettre la main sur le peu de nourriture disponible. Donc, c'est cet avertissement. Et c'est répété par plusieurs pays en disant à Israël, la famine ne peut pas être une arme de guerre. Et c'est ce qu'elle est actuellement. Israël se défend en disant qu'il y a des convois. Mais dans les faits, c'est au compte-gouttes que l'aide humanitaire se rend à destination. Tout ça arrive alors qu'il y a encore un certain nombre de combats, d'attaques sur le terrain. Et aussi, on reprend les pourparlers pour essayer de trouver un cessez-le-feu. Il y a encore toute la question des otages. Et puis, le Parlement canadien, Chambre des communes, qui a adopté une motion pour promouvoir la paix au Proche-Orient. Et on l'a édulcoré parce qu'on voulait, dans un premier temps, c'était l'intention du NPD, reconnaître l'État palestinien, et ça n'aurait pas passé. Donc, on a enlevé cette partie de la motion pour essentiellement adopter un texte qui est très général, qui est très correct, là, c'est-à-dire de mettre de l'avant la paix. Et la presse nous apprend ce matin qu'il y a deux combattants québécois qui sont morts pendant la guerre en Ukraine. On a vu des miliciens, on peut appeler ça des mercenaires, se déplacer et se rendre, et même d'inviter d'autres à participer au combat. Donc, c'est deux militaires volontaires était du côté des Ukrainiens. Et notamment le commandant d'une unité qui a recruté des dizaines d'Occidentaux depuis la guerre. Alors, ils sont morts en Ukraine au cours des derniers jours. Et les Russes ont récupéré cette information. Vous lirez ça dans la presse ce matin, c'est Tristan Péloquin qui nous apprend ça. Les deux militaires en question, un s'appelle Jean-François Ratel. Il était le fondateur de la Brigade Normande, une organisation qui a été parmi les premières à enrôler des soldats québécois. Et l'autre victime, c'est Alain Derasme, un ancien du Royal 22e qui a participé à plusieurs missions de l'ONU. Et c'est l'ambassade de Russie en Afrique du Sud qui a annoncé la mort de Derasme en disant qu'il avait été éliminé et qu'il s'agissait donc d'un mercenaire. Et entre-temps, Vladimir Poutine, qui a été réélu avec cette majorité incroyable, s'est retrouvé lors d'une fête sur la Place Rouge et il a rappelé que la Russie n'avait pas l'intention de laisser tomber et qu'elle poursuivait cette offensive militaire, il ne parle pas de guerre, mais d'opération militaire en Ukraine, et tant et aussi longtemps que la Russie ne va pas signer une victoire. Tout ça, évidemment, après ce mandat très clair. Haïti, on apprend, c'est des informations de l'Associated Press, qu'il y a eu des attaques dans ce qu'on appelle les quartiers les plus riches, enfin les quartiers les mieux nantis de la capitale. Ça s'est passé tôt hier matin et au moins une douzaine de personnes ont perdu la vie. Même des gens qui habitent à La Boule, à Thomassin, qui ont été attaqués avant le lever du soleil. Et des gens qui avaient peur, des coups de feu ont été entendus. Ils ont téléphoné dans les stations de radio en disant « Voulez-vous appeler la police? » Et tout ça, évidemment, s'inscrit dans cette vague de violence qui déferle à Port-au-Prince depuis des mois, mais avec beaucoup plus d'intensité depuis le 29 février. Donc, des corps qui ont été retrouvés aussi dans certaines rues de Pétionville, dans la rue, près des maisons, des gens qui ont été assassinés. Et puis, un mot sur Donald Trump. Hier, ses avocats ont dit on n'est pas capable d'aller chercher les garanties financières pour déposer 450 millions. 454 millions, pour être plus précis. Alors, ce sont des montants que Trump, ultimement, devra payer parce qu'il a été condamné, notamment pour une affaire d'agression sexuelle, et aussi pour avoir menti, gonflé la valeur de ses entreprises pour faire une forme de fraude. Et évidemment, il conteste, il va en appel de ça, mais il doit déposer en garantie les montants d'argent. Et ses avocats ont dit... On a cogné à peu près toutes les portes possibles, puis on parle de taux d'intérêt élevés. Il n'y a personne là, qui a 454 millions à prêter à Trump, et lui n'a pas cet argent-là. Il l'a sous forme de propriété. Donc, est-ce qu'on va réduire le montant de la garantie demandée? Comment on va faire? Ça reste un mystère. Puis je veux juste ajouter une chose sur Trump. Quand on parlait de bain de sang hier, évidemment, les Trumpistes m'ont écrit pour me dire il parlait de l'industrie automobile. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. C'est vrai qu'il a jumelé la phrase ou les phrases concernant la Chine, le fait qu'il imposerait des taxes supplémentaires pour protéger l'industrie automobile américaine. Et il a dit, il y aura un bain de sang si je ne suis pas élu. Il a répété deux fois, si je ne suis pas élu. Les gens, vous voyez, vous faites de la désinformation. Quand Trump, dans un discours, parle de bain de sang, parle de l'industrie automobile, il n'a pas dit une crise de l'auto. Il parle de bain de sang. Il utilise à répétition ces images. Et aussi, dans le même discours, il a parlé de ceux qui ont donné l'assaut au Capitole le 6 janvier comme étant des patriotes et qu'il ferait tout pour les aider. C'est pas innocent. Vous pouvez faire le choix de pas voir les liens, de penser que... Et c'est ça sa stratégie. C'est pas ça que j'ai dit. Hier, il est ressorti en disant non, je parlais de l'industrie automobile. On parlait de bain de sang, puis de l'attaque du patriote quelques phrases plus loin. Puis que vous faites la somme des déclarations, on voit un peu le style et le ton de cette campagne. Et il continue, puis il va continuer à le faire parce que visiblement, ça lui donne des points d'avance dans les sondages. Le soleil revient ce matin sur les nombreuses enquêtes du coroner au sujet de la mort de patients dans des établissements du réseau de la santé au Québec et met en lumière l'engagement que pas le gouvernement, à l'époque c'était le parti, là, mais la CAQ est devenue le parti du gouvernement. 3 ans et demi avant d'être élu, on disait il faut absolument avoir et c'était François Paradis, le député, qui disait ça, avoir une structure qui fait en sorte que le travail des préposés aux bénéficiaires est encadré de façon professionnelle, que les soins et les services aux patients soient encadrés donc par des normes et qu'il y a un manque évident de formation. Et là, ils reprennent, je dirais, les enquêtes du coroner des 20 dernières années en donnant des exemples où le personnel était mal formé. Tout ça, c'était avant qu'on donne une formation rapide en raison de la COVID. Et on raconte, par exemple, une femme qui a été installée dans un lève-personne pour sortir d'une baignoire. La préposée a oublié de l'attacher. Elle s'est retrouvée au sol avec quand même une blessure importante. Et il y a 10 ans, on recommandait au ministère de la Santé de vraiment faire les démarches pour créer une nouvelle entité avec une adhésion obligatoire, puis des mises à niveau, puis des vérifications sur les compétences. Là, on donne des formations rapides, puis dis pas que les gens sont pas de bonne foi, que des erreurs, ça peut arriver, mais toutes sortes d'événements qui sont arrivés dans des CHSLD, d'autres endroits, et même un coroner a dit, ça va prendre combien de décès avant que l'exercice de la profession de préposé aux bénéficiaires soit vraiment encadré. Vous lirez ça, c'est dans Le Soleil ce matin. Marie-Claude Barrette passe en mode attaque contre Facebook, Meta, si vous préférez, et tout ça en raison des fausses pubs. Le volume de fausseté sur les réseaux sociaux est hallucinant. Puis, dès que vous êtes le moindrement connu, on peut vous faire dire n'importe quoi, et surtout, on peut vous associer à des produits. On a eu la vague des régimes amaigrissants. Dans le cas de Marie-Claude, elle s'est retrouvée associée à une opération de crypto-monnaie qu'elle n'a jamais cautionnée. Elle savait pas de quoi on parlait. Ce sont des gens qui sont allés lui dire « Écoute, ça a l'air que tu as fait de l'argent là-dedans, puis on sait pas de quoi on parle. » Vous savez, Normand Brathwaite, on l'a déclaré mort à quelques reprises. On l'a associé à un paquet d'affaires. Puis la liste des gens connus, c'est Gino Chouinard. Puis il y en a plein, là. Ça, c'est ce qu'on sait. Et là, elle trouve que c'est suffisant. Et donc, c'est un recours collectif au nom de personnalités publiques qui ont subi le même sort qu'elle en étant associées de façon frauduleuse à des opérations publicitaires. Denis Coderre, ça a été la même chose. Donc, à la base, il faut se méfier de ces publicités. Et plus l'intelligence artificielle va se développer, plus on va se retrouver avec ce qui va nous sembler, comme étant vrai, réel. Prendre la voix, l'image d'une personnalité et de lui faire dire n'importe quoi. Et là, on va assister à des dérapes. On va lui parler ce matin, il sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Et en parlant de dérapes, c'était hier le rapport de l'inspectrice générale de Montréal sur les magouilles. Il y a encore des gens qui comprennent rien. Et c'est le dernier de l'inspectrice, Brigitte Bishop, qui sera avec nous ce matin. Puis soulève un certain nombre d'événements, mais elle reconnaît que, c'est pas facile, qu'il y a des entrepreneurs qui sont des cow-boys, des délinquants, des bandits, et qui ont mené au fil du temps, après qu'elle ait remplacé Denis Galland, des opérations d'intimidation pour la casser. Il semble qu'il y a même un détective privé qui a été embauché pour fouiller sa vie personnelle en espérant qu'on va trouver un scandale, un squelette, puis qu'elle va lâcher prise. C'est ce qu'elle a déclaré à la presse. On a tenté de m'intimider. Et là, donc, elle termine son mandat. Et on se rend compte assez facilement que même si la commission Charbonneau avait permis d'exposer des stratagèmes, des façons de faire, de la collusion pour l'octroi de contrat, c'est que souvent les bandits, ce qu'ils font, d'abord, ils reconnaissent pas ça, ils peuvent faire un pas de côté, trouver de nouvelles astuces, de nouvelles arnaques, et c'est ce qu'ils ont fait, notamment dans la préparation d'appels d'offres. Et elle se rend compte aussi, au fil du temps, qu'il y a des gens qui vont toujours essayer de flouer le système, vont toujours essayer de s'entendre, de fixer les prix, de faire en sorte que la facture explose. Puis on le voit là au fédéral avec ArriveCard, cette application qui devait coûter peu et qu'on a embauché des sous-contractants, des gens qui ont monté des factures, ont gonflé une facturation tout à fait de façon criminelle. On le verra, là, il y a des enquêtes. Mais en résumé, le monde croche. Il y en a eu, puis il y en aura toujours. D'autre part, la presse nous apprend ce matin que les agressions contre les employés de la STM sont en augmentation, surtout les chauffeurs d'autobus et les constables spéciaux. 348 cas l'an dernier, une augmentation de 6 %. Et je comprends que le métro demeure sécuritaire. Et c'est pas parce que vous prenez le métro que vous allez être victime d'une attaque. Mais il y a un sentiment pour beaucoup de gens d'insécurité quand vous croisez des gens qui ne vont pas bien, qui ont des enjeux de santé mentale, des gens qui sont parfois doux, tranquilles et qui se transforment pour toutes sortes de raisons en bêtes, en étant très agressifs. Tu sais pas quoi faire. Tu sais, l'image, là, tu rentres dans un tunnel et il y a des gens qui te regardent, qui les témoignages sont nombreux. Même l'accès à des stations de métro, c'est embêtant. Puis il y a de la détresse, il y a de la souffrance. Ce ne sont pas nécessairement tout le temps des gens dangereux, mais il y a, veut pas, ce sentiment d'intimidation. Et dans toutes ces agressions, quand même, c'est ce qu'on sait, là. C'est-à-dire qu'il y a des cas qui ne sont pas rapportés. Puis là, on parle d'employés, puis on peut parler également des usagers qui traversent. Puis on a vu ces menaces aussi avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux juste faire une parenthèse très rapide. On sait qu'il s'est retiré, il n'a pas fait son discours au Conseil national du Bloc québécois, là, congrès du Bloc. Éric Duhaime, il est, je ne sais pas s'il fait exprès, là. Tu regardes Guillaume Lemaitre-Vierge, tu dis lui, il fait exprès d'envie pour tout perdre, là. Perdre son contrat de pub d'auto, et là, avec ses propos, avec le mot « haine », en fait, ses images, il vient de perdre le chanteur masqué, on va en parler avec Catherine dans deux instants. Et là, M. Duhaime dit que Paul Saint-Pierre Plamondon est pas mal trop vulnérable. Qu'un chef, un vrai chef, doit démontrer qu'il est fort quand il reçoit des menaces. Et il doit pas plier les genoux, pas baisser la garde, pas se mettre en boule, puis surtout pas montrer qu'il a peur. On va vous laisser juger. Je sais pas, ils cherchent une voie de passage, ils essayent d'attirer l'attention. Depuis que la COVID est, pour ainsi dire, terminée, là, ils ne savent plus trop sur quel terrain aller se battre. Puis là, ils s'accrochent à ce genre de réflexion. Il y a François-Philippe Champagne, un classique, qui se retrouve dans une soirée dans un comté libéral. C'est la députée. Et là, on est dans le dossier des postes de police chinois. La GRC enquête là-dessus, les fameuses antennes à Brossard et à Montréal. Et donc, François-Philippe Champagne est invité pour une soirée dans un petit restaurant de Brossard. C'était il y a quoi, un mois maintenant, le 20 février. Et là, cette conseillère municipale qui est impliquée dans ces pseudo-postes de police chinois, qui font l'objet d'une enquête de la GRC, est présente. Malaise. C'est quand tu débarques à une activité où on te prend en photo, tu sais pas toujours avec qui. Puis là, t'apprends que, bon, et t'es confronté à ça. Ça a l'air qu'il était pas content et qu'on aurait dû l'informer de cette situation. Rapidement, recrutement de policiers au Québec. Radio-Canada dit que on a atteint pas mal le top, là, en termes de capacité de former des nouveaux policiers. Et que ce qui est clair, c'est que la Sûreté du Québec recherche 1600 nouveaux policiers d'ici 2027, donc les fameux départs à la retraite. Ça, c'est la Sûreté du Québec pour l'ensemble du territoire. Le SPVM cherche des policiers également. Et il dit, quand on a fait l'évaluation pour savoir jusqu'où on peut aller sur le point de rupture et de saturation pour former avec qualité, cohérence et pertinence des policiers, c'est le chiffre 1000 qui a été adopté. Et clair, c'est que 1000, ça répond pas aux besoins. Donc, on va toujours être à la recherche de policiers. Donc, c'est Radio-Canada qui parle de ça ce matin. L'enquête du coroner sur le décès de la policière Maureen Brault se poursuit avec le coroner Jeanne Kamel. Et de plus en plus, les témoignages vont dans une direction. C'est que c'est un décès qui aurait pu être évité si les policiers avaient les meilleurs outils entre les mains quand ils font ce type d'intervention. Et un mot pour vous dire qu'Hydro-Québec annonce, par la voix de son président, M. Michael Zébia, que les tarifs vont demeurer bas. Ça, c'est après les réflexions du ministre Pierre Fitzgibbon, qui a dit qu'on gaspille trop. Et qu'on va devoir augmenter les tarifs, pas maintenant, là, pour deux raisons. D'abord, il ne veut pas contredire le premier ministre qui a dit que ça va être 3%, puis il n'y aura pas d'augmentation massive avant les élections. Mais il y a quelqu'un, quelque part, dans quelques années, qui va augmenter de beaucoup les tarifs d'hydro, mais c'est pas pour l'instant. Il dit que ça dépasse pas les 3% dans les prochaines années. Alors, on verra pour la suite. Et puis, je finis en vous parlant de la fermeture de Fruits de mer de l'Est à Matane. C'est une grosse nouvelle, c'est un choc. Une usine de transformation, 55 salariés, il y a même 104 travailleurs étrangers temporaires qui sont là. On avait même construit ou aménagé des logements pour eux. Alors, pourquoi on ferme? Ben, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire manque de main-d'œuvre, les prix sont à la baisse et le quota de pêche de la petite crevette fait en sorte qu'on est en pénurie, qu'on n'a pas la capacité de vendre assez. Alors, c'est une entreprise du Danemark qui a annoncé hier qu'elle mettait la clé dans la porte et que c'est maintenant une aventure terminée.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On a appris donc que Marie-Claude Barrette est passée en mode attaque contre Meta, Facebook si vous préférez, pour de la publicité trompeuse. Elle n'est pas la seule victime. On a vu toutes sortes de choses dans les derniers mois. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Marie-Claude.
Bonjour, Paul.
On va résumer les faits d'abord. Que des photos de vedettes soient associées à de la pub, à du marketing. On a vu ça, là, puis la liste est longue. Dans ton cas, c'est une opération de crypto-monnaie. Mm-hmm. Comment tu l'as su? Comment c'est arrivé?
Ben, tu sais, moi, j'ai une page Facebook professionnelle, puis il vient avec ça un Messenger. Et là-dessus, à un moment donné, je me suis dit, c'est le 6 octobre, j'ai commencé à avoir des messages, combien je devrais investir dans ta crypto-monnaie. Ben, tu sais, sur le coup, tu dis, voilà, je sais pas c'est quoi. Fait que là, je répondais, je sais pas de quoi vous parlez. Mais là, à un moment donné, pendant la journée, il y en avait de plus en plus. Et là, j'ai demandé à une dame, est-ce que c'est possible d'avoir une photo de ce que vous me parlez? Et là, je vois la presse, je vois une photo de Guillaume Lepage, on parle de tout le monde en parle, je vois moi qui est en train de pleurer sur parce que on me dit que je suis hystérique parce que personne ne me croit, mais j'ai trouvé une faille dans la crypto-monnaie et les gens peuvent devenir faire beaucoup de sous rapidement. Mais tu sais ce qui était très étrange, c'est qu'on disait que parce que oui, tu sais, ils prennent du vrai et du faux. J'étais à Tout le monde en parle cette journée-là, le 27 février 2023, mais là ils disent que pendant que je parlais de ça, quelqu'un de la Banque du Canada m'a entendu, a appelé Radio-Canada pour interrompre l'émission parce que j'avais pas le droit de dire ça publiquement et que la presse a fait une enquête et voici ce qu'elle a dit alors que l'émission n'était pas diffusée. Et ça marchait tellement dans la tête de plusieurs personnes qu'il y en a qui s'obstinaient avec moi. Je disais, c'est une arnaque. Non, je t'ai vu. Non, c'est impossible. Oui, t'étais là. Tu l'as dit. Alors, il y a des gens qui ont pas voulu entendre. Il y a des gens qui étaient contents que je leur dise que c'est une arnaque. Il y a des gens qui se sont fait avoir. Et ceux qui appelaient pour avoir des renseignements, il y avait c'était du harcèlement téléphonique après. Puis une fois qu'ils avaient mis de l'argent, ben là, il y avait plus de son, plus d'image. Alors, c'est des drames humains, là, auxquels j'ai répondu.
Pourquoi tu penses qu'on t'a associé à de la crypto-monnaie? Pourquoi Marie-Claude Barrette, tu sais, Pierre-Yves McSween, on aurait dit OK, c'est dans son jardin là.
Mais je pense que tu sais l'argent, il y a une notion de confiance. Tu vois, tu sais, il y en a plein qui se font avoir par leurs proches, par leurs comptables. Pourquoi? Parce que d'abord, ils leur font confiance. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est probablement ils ont avec cette fraude là, peut-être. Moi, je pense qu'ils ont des psychologues aussi pour les aider à faire ces fraudes là, pour rentrer dans la tête du monde de la façon qu'ils le font. Et peut-être qu'ils ont dit, ben quelqu'un de confiance, dit, regarde, moi j'ai viens-t'en avec moi, tu vas faire de l'argent toi aussi. Et je pense que c'est ça, c'est que les gens me faisaient tellement confiance. Et là, c'est ça qui fait mal. C'est basé sur la confiance. Il y a une fraude qui est en train de vous avoir. Tu sais, moi, là, il y a une dame qui m'a écrit, Paul, au mois d'octobre, elle me dit, écoute, j'ai réussi à mettre un mois de côté pour mon mois de novembre. Je viens de payer mon mois d'octobre de mon logement. Là, j'ai mon mois de novembre. Qu'est-ce que tu penses si je le mettais au complet pour les trois prochaines semaines? Penses-tu que j'en aurais assez pour payer ma prochaine année de loyer? Ben, imagine la confiance là, qu'elle est en train de me dire. Tu sais, on va. Et je te dis, j'ai fait ça. Et à un moment donné, ça use psychologiquement de répondre à ces gens-là, de me défendre. Et ce qui est arrivé à un certain moment, c'est quand les gens ont voulu se faire rembourser. Là, il me disait, mais tu vas me rembourser. Puis là, il y avait des mots qui étaient moins beaux. Parce que là, eux autres, ils disaient, mais la seule personne que je sais qui est là-dedans, c'est toi. Ça fait que, OK, toi, t'as bien du cash, là, tu vas me rembourser. J'étais, voyons de quoi. C'est pas moi, puis je vous l'avais dit. Puis, mais bon, tu sais, je l'ai écrit sur ma page Facebook. J'ai fait des entrevues. J'ai contacté la Sûreté du Québec. J'ai contacté la police de mon territoire. Tu sais, à un moment donné, il y en a plus de ressources là.
Est-ce que tu sais combien de personnes ont investi à cause de cette publicité?
C'est difficile à dire parce que.
Mais toi, t'as eu combien de cas?
Moi, j'ai eu des milliers de messages. Puis là-dessus, il y en a au moins 1000 qui ont investi, je te dirais. Et il y a tous ceux qui ont honte, hein. Tu sais, ceux-là, je les sais pas. Et c'est pour ça que le recours collectif, je trouve que pour ces personnes-là, de dire vous êtes pas seul, arrêtez de vous cacher là. C'est un stratagème qui est fait pour vous faire sortir de l'argent de vos poches. Et il faut pas avoir honte de ça. Donc, et si j'ai décidé d'aller vers l'action, la demande d'action collective, c'est parce que Sylvain Paquette, qui est un spécialiste des crimes numériques que je recevais à mon émission, à un moment donné, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, moi, je sais plus quoi faire, ça m'empêche de dormir parce que ça arrête pas d'arriver, ça s'arrête plus. Et lui, il m'a dit, tu pourrais faire une action collective à deux volets. Usurpation d'une personnalité, du nom d'une personnalité publique et aussi fraude. Aller chercher tes victimes qui ont été victimes de la fraude. Là, je dis, OK, s'il y a deux volets, moi, ce qui est important, c'est les victimes. C'est elles qui perdent ces victimes-là. Et de dire, je ne suis pas responsable publiquement. Parce que de toujours, de garder ce doute que je mettais l'argent dans mes poches, je veux dire, c'est insupportable. Écoute, je suis allée dans un magasin à un moment donné pour payer, puis il y a quelqu'un qui disait, avec tout l'argent que tu voles au monde, tu dois en avoir du cash. Hey, là, j'étais, oh non, non, hey, ça peut pas. À un moment donné, j'étais avec ma fille, puis il y a des dames disant, on se parlait, hey, si on met 500 piastres dans ta business, combien? Puis là, j'étais, ben non, c'est trop, là, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller vers ce chemin-là.
Est-ce que tu sais qui se cache derrière cette campagne de publicité? Qui a mis l'argent dans ses poches?
Ben, c'est la seule personne qui peut nous le dire, c'est Meta. C'est parce que...
Toi, tu le sais pas, là.
Ben non, parce que ça, c'est des gens, là, on les appelle Momentum, là, c'est le nom comme de l'entreprise qui donne pour aller chercher l'argent. Mais eux, là, ils achètent de la publicité sur Facebook, avec Meta. Donc, il y a une transaction financière qui se fait, d'après moi, depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Donc, c'est sûr que Meta a les coordonnées. Là. En tout cas, il y a un lien, il y a de l'argent qui se donne à quelque part. Et Meta, ce qu'ils nous ont répondu, c'est « Cette publicité correspond à tous nos critères. Si elle ne vous convient pas, nous allons vous retirer le nom de la liste de ceux qui la reçoivent. » Alors, puis tu sais, j'ai été sur la place publique. N'importe quelle entreprise dont tu vas parler sur la place publique, habituellement, te rappelle pour te dire « Attention, tu fais du tort à l'image, on va se rencontrer. » Moi, j'ai eu aucune nouvelle vraiment. Là, j'ai juste eu le genre de commentaire que je viens de te dire.
Est-ce qu'on peut penser que, parce que c'est souvent le cas quand on a des arnaques comme ça, que ce sont des gens à l'extérieur du Canada, oui, du Québec, avec peut-être une couple de ramifications ici, là, pour être capable de te cibler, puis bon.
Oui.
Mais que, à part Facebook, il n'y a pas grand recours. Puis c'est un géant, Facebook, là. Tu t'en vas te battre avec...
Oui. Ah, mais je le sais, mais tu sais, c'est pour ça que ça n'a pas été le premier réflexe. Puis je pense que, là, tu sais, le but présentement, c'est que la demande d'action collective soit acceptée. On m'a dit que ça prend environ 4 à 6 mois. Après ça, on va préparer la preuve avec toutes les victimes. Tu sais, moi, j'ai déjà des personnalités publiques qui m'ont contacté. On a déjà plusieurs victimes, mais c'est ouvert à tout le monde, là. Dès qu'on rentre dans ces deux catégories-là, nous faisons partie de cette requête-là. Et ça va prendre probablement plusieurs années, mais je pense que l'inertie, pour moi, ne rien faire, ça n'a aucun sens. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est ce que je suis en train de faire. C'est bien beau chialer à droite puis à gauche, mais il y a des gens qui continuent à se faire, je vais le dire, fourrer. Puis là, tu vois, il y a Normand Bratoit qui a eu exactement la même fraude que moi, tu sais. De savoir que notre nom fait qu'il y a des gens qui mettent leurs finances, qui mettent leur retraite en danger. Moi, j'ai eu, je te dis, des témoignages de gens, puis je leur dis appeler la police. Moi, j'ai un numéro de dossier où quand on le donne, on arrive directement dans cette fraude-là. Alors, c'est moi, j'ai tout fait pour protéger le plus possible les gens. Et c'est sûr qu'avec la police, maintenant qu'il y aura plus, parce que ça prenait deux personnalités publiques pour aller de l'avant. Moi, quand j'ai appelé la Sûreté du Québec, ils m'ont dit que j'étais la première personnalité publique à appeler parce qu'ils ont un programme pour ce genre de fraude. Et c'est sûr que Interpol doit rentrer, mais pour ça, ça prend d'abord la collaboration de Meta pour avoir le minimum de renseignements sur ces gens-là qui sont derrière cette fausse publicité-là.
Mais ça arrivera jamais. Il y aura jamais de collaboration de Meta.
Alors, c'est pour ça qu'on va les poursuivre. Puis tu sais, dans cette fraude-là, on se sert du nom de la presse, hein, avec le logo de la presse. Alors, c'est pour ça que c'est embêtant pour les gens aussi. T'as la presse, t'as la photo de Guillaume Lepage qui est très crédible, avec tout le monde en parle. Tu sais, on parle de Radio-Canada, on parle de la Banque du Canada. Alors, c'est sûr pour les gens, à un moment donné, ils disent, mais c'est sûr que c'est vrai. Puis tu sais, quand tu vois l'entête de la presse, alors je vais voir ce que ça donne. On avance contre Meta, mais il y a plus de chances qu'il y ait quelque chose qui change avec le recours collectif qu'en restant chez moi en train de répondre à des messages sur mon téléphone à des gens qui se sont fait arnaquer.
Il y en a eu beaucoup. Puis il y a beaucoup de noms qui ont été utilisés. Là, on parle de crypto-monnaie, mais on a vu ça pour des régimes amaigrissants. On a vu ça pour un paquet d'affaires. Là. C'est-à-dire que les gens tombent là-dedans. Là.
Mais c'est les régimes amaigrissants. Ça, je serais curieuse de voir combien de pots de pilules ils vendent. Là. Puis ils croient. Puis même là, si la personnalité publique dit que c'est faux, ben ils veulent pas l'entendre. Il y a plein de gens qui disent non. Il y a quelque chose qui rentre dans la tête qu'on n'est plus capable de défaire. Moi, je pourrais te montrer
des
échanges.
Denis Coderre a maigri grâce à ça, tu comprends? Puis là, il y a beau dire que c'est pas vrai, ben le monde achète pareil.
Oui, parce que c'est comme si... Moi, là, ce que je comprends, ce monde-là, vont dire, hey, tu veux garder ça pour toi, mais non, c'est sorti, ça a coulé. Moi, là, Paul, là, il y a des soirées, j'étais sur mon divan, puis je m'obstinais des fois avec deux personnes, juste avec deux personnes. C'est faux. Hey, c'est vrai. Écoutez, madame, je veux pas que vous faites prendre avec ça. C'est vraiment une arnaque. Hey, qu'est-ce que t'en sais? Ben, parce que c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça. Oui, je t'ai vu. Hey, mais ça, là, moi, j'en parlais à mes amis, puis tu sais, tout le monde était, mais c'est pas si grave, arrête de répondre. Ben, c'est parce que c'est mon nom, parce que je les vois rentrer. Puis si, au moins, je dois dire que c'est faux à chacune des personnes. J'ai eu beaucoup de discussions avec des hommes aussi qui se sont fait avoir. Et eux, ils en parlaient, ils disaient, OK, là, je me sens mal. Il y avait une différence avec les femmes et les hommes. Je trouvais que les hommes arrivaient vite, OK, je me suis vraiment fait fourrer. Qu'est-ce que je peux faire? Ils étaient moins dans... On dirait que les femmes avaient vraiment plus de colère à cette fête à voir que les hommes. Les hommes, ils disaient, OK, qu'est-ce que j'ai pensé? Je voyais vraiment la différence. Et c'est une des victimes de la fraude qui m'a écrit. Parce que moi, j'en ai donné plusieurs à l'avocat. Ils les ont contactés et il y en a un qui a accepté d'être le porte-étendard de toutes les victimes de la fraude.
Il est en Beauce, je pense. Il semble qu'il est en Beauce.
Oui, il est en Beauce, exactement. Ouais. C'est un Beauceron.
Marie-Claude, merci d'être venue ce matin. Bonne chance.
Ben, ça me fait plaisir. Écoute, je vais venir te voir dans 10 ans. Ben, tu seras plus là, mais en tout cas, peut-être ailleurs, je viendrai te voir pour te dire qu'est-ce qu'il y en est. C'est à suivre.
Merci beaucoup. Marie-Claude Barrette, donc, qui a déposé cette requête de recours collectif contre Meta Facebook.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
On vient de parler d'arnaque, de fraude. On va poursuivre avec la thématique un peu des criminels, souvent bandits à cravate, qui n'apprennent pas des conclusions de la commission Charbonneau, qui tiennent pas grand leçon. Avec le dépôt du rapport de l'inspectrice générale de la Ville de Montréal, qui termine son mandat, Brigitte Bishop, qui est avec nous ce matin. Madame Bishop, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
On s'est vu souvent durant votre mandat pour voir un peu comment évoluait ce type de criminalité à Montréal. De façon globale, il y aura toujours des bandits à cravate, il y aura toujours des gens qui vont vouloir flouer le système. Est-ce qu'au fil des ans, vous avez vu des changements dans leur façon de faire?
Ben, premièrement, c'est sûr qu'il y en aura toujours, là. Parce que la façon de faire de l'argent, souvent le blanchiment d'argent, on sait que la meilleure façon, c'est d'aller dans des contrats publics, là, d'aller chercher de l'argent propre pour pouvoir blanchir le sale. Fait que donc, ça va toujours exister. Ça va toujours exister de vouloir faire le maximum de profit, pensant qu'on n'est pas surveillé. C'est ce qu'on constate aussi. Mais ça va toujours être là. La différence, c'est qu'on voit que ça se répand. La commission Charbonneau, c'est vraiment sur l'industrie de la construction. Ce qu'on a constaté, puis je pense au fil des années, on l'a démontré, c'est dans le déneigement, c'est dans les poubelles, c'est dans le recyclage, c'est vraiment dans partout qu'on le voit à ce moment-là, ce manque de rigueur-là, puis c'est cette délinquance contractuelle-là.
Les chantiers de construction, est-ce que ça s'est amélioré? J'ai l'impression que oui, là, la surveillance, il y a moins de fonctionnaires ripoux, il y a des entrepreneurs peut-être plus prudents, on va dire, là.
Ben, on était très fiers de le voir. Je pense que la ville, c'est avec les rapports, à force de faire des rapports, puis des fois d'humilier, là, un petit peu, là, on se le cachera pas. La ville s'est responsabilisée. C'est ça qu'on constate. L'été dernier, sur dans notre programme de surveillance de chantier, on a réalisé, puis on le rapporte dans le rapport, que vraiment, les surveillants de chantier étaient à leur affaire. On est parti, souvenez-vous, en 2018, où même 2019, on dénonçait que les surveillants de chantier, généralement, c'était des juniors. C'était des gens qui se faisaient intimider. C'était des gens qui n'avaient pas vraiment de colonne. Là, maintenant, on voit que les gens se tiennent debout, puis on a même vu, là, dans des cas, des surveillants qui ont carrément refusé du matériel, du matériel parce que ça c'était pas conforme avec le contrat. Ce qu'on n'avait pas vu avant, c'est ce qu'on avait dénoncé d'ailleurs.
Mais est-ce que ça joue ailleurs dans la préparation des appels d'offres, disons des relations incestueuses entre des firmes puis des fabricants?
Ça, c'est clair. J'ai enfoncé ce clou-là souvent, là. Et ça, on a des programmes de formation. Ça, on lâchera jamais. Faut vraiment pas lâcher ça. C'est les fameux devis dirigés. C'est le placement de produits. C'est insidieux. Ça prend, des fois, vous savez, il y a des devis qui ont des milliers de pages, là. Donc, faut vraiment aller voir. Faut vraiment aller les analyser. C'est pour ça qu'on a parti à une équipe de vigie. Mais, c'est là. Je pense que, un des endroits où il y a une facilité pour les entrepreneurs, les ingénieurs, pour placer leurs produits, c'est vraiment dans des devis, c'est dans des contrats de services professionnels.
Bon, l'environnement, c'est un thème là qui fait la manchette tous les jours, là. Et là, on s'aperçoit qu'une des façons aussi de contourner le système, parce qu'il faut se débarrasser de déchets, de matières évidemment toxiques, on tourne les coins ronds, puis on fait pas ça nécessairement en respectant les règles.
Tout à fait. L'environnement, ça a été quelque chose qui m'a vraiment préoccupée tout le long de mon mandat, là. Il faut dire qu'on a, au bureau, on a des gens, on a même un ingénieur qui est spécialisé là-dedans, là. Et on l'a constaté. On avait fait une grosse étude, puis on avait réalisé que on pouvait disposer, on pouvait même réutiliser des sols qui étaient pas trop contaminés. La ville s'en débarrassait. Là, on a créé des centres, des sites pour pouvoir les prendre et les réutiliser. Maintenant, on a également, ça fait plusieurs dossiers qu'on a où on voit que la disposition des sols est tout à fait tout croche. Là, maintenant, on a des mesures de traçabilité. Le ministère de l'Environnement, je sais que le nom est plus long, moi je l'appelle le ministère de l'Environnement. Là.
Et du développement durable.
Bon, c'est ça, c'est long. Mais le ministère de l'Environnement, c'est lent, mais ça arrive, ça finit par arriver. Comme là, la traçabilité des sols, on est capable de voir où les camions vont disposer des sols. C'est nouveau, là. Ça fait longtemps que c'est demandé, ça fait longtemps qu'on nous le promet. Là, c'est en place. Ça nous aide. Par contre, ce qui est déficient, c'est justement l'été dernier dans nos chantiers, on a réalisé qu'il y avait des matières résiduelles qui étaient disposées à des endroits qui n'étaient pas autorisés, mais ça nous a pris des mois à avoir quelqu'un du ministère de l'Environnement pour venir constater le problème.
Est-ce que ça fait pas en sorte que des gens qui se disent, avant que quelqu'un m'attrape, avant que le ministère se réveille, avant qu'il y ait une accusation au criminel, j'ai le temps d'empocher pas mal?
Ben ça pourrait, mais c'est pour ça que ça donne encore plus la pertinence d'un bureau comme le mien.
Oui, mais il y a ce réflexe naturel là de dire avant qu'il m'attrape là.
Ben c'est sûr, c'est pour ça qu'il faut vraiment. Il faut être là. Puis le ministère de l'Environnement, on le sait qu'ils font des efforts. Le Québec, c'est grand, là. T'sais, je veux dire, je pense pas qu'on peut avoir des inspecteurs de l'environnement dans toutes les villes puis à tous les jours, là. Mm-hmm. Mais c'est sûr qu'il y a place à l'amélioration parce que je pense qu'effectivement, s'il y a un endroit qu'il faut regarder, c'est là. Surtout que là, il y a beaucoup de chantiers. Il y a une reprise économique. Il y a beaucoup de contrats qui vont se donner. Donc, il faut vraiment, vraiment renforcer ces mesures-là.
C'est votre dernier rapport. Vous terminez votre mandat. Je lisais l'entrevue que vous avez donnée à la presse ce matin. Vous avez parlé de ces moments un peu plus difficiles, là, d'intimidation, d'enquête qu'on faisait sur vous. Vous êtes-vous déjà senti troublé par ça au point de dire, là, moi, j'arrête, là, c'est une option dans ma vie, là, de me faire intimider?
je vais nuancer ma réponse parce que cette semaine, il y a été beaucoup question de menaces puis d'intimidation ouais. là, chez des fonctionnaires, des élus, etc. Je suis pas dans la même catégorie. Moi, je fais des attaques frontales. Je m'attends des fois à certaines répliques, certaines ripostes. Je l'accepte pas, mais je m'attends à ça. Donc, c'est pas la même chose, là. Dans mon cas, à moi, ça va un peu avec la job. Est-ce que il y a des moments où j'ai voulu reculer? Non. Comme je vous dis, pour moi, ça me motive encore plus. Parce que je me dis, si on me fait ça à moi, alors que j'ai une personnalité quand même publique, je suis assez entourée, je suis protégée par des lois, imaginez ce qu'on peut faire aux gens qui n'ont pas ces protections-là. Donc, ça me force, pour moi, ça me motive encore plus à dénoncer ça.
C'est allé jusqu'où, les menaces, les formes d'intimidation? Ça se manifeste de quelle façon?
Au big? Mm-hmm. Ça se manifeste sur... c'est plus pour attaquer ma réputation. Je vais vous avouer que sur le long terme, je vais le voir. C'est qu'il y a certains cercles qui vont miner ma crédibilité. Certains ingénieurs qui ont de l'influence certaine, qui vont me faire une mauvaise presse, qui vont... je sais pas, moi, il y a des gens qui vont peut-être avoir une très mauvaise opinion, très fausse opinion de moi, parce que, comme je dis, c'est insidieux, ça va vraiment au niveau de ma réputation.
Il y en a même un, ou je sais pas qui, là, qui a payé un détective privé pour aller voir s'il n'y a pas un squelette qui traîne quelque part.
Oui, mais je souris, là, c'est parce que, soit le détective était vraiment pas bon, là, parce que
vous avez des squelettes.
C'est ça. Non, c'est pas je l'ai su. Non, c'est pas ça que je veux dire. Attendez, non, je recommence. Non, mais c'est parce que je l'ai su. Normalement, je devrais pas le savoir. Fait que donc, c'était tellement flagrant que je l'ai pris comme une tentative d'intimidation. Donc, les gens qui ont engagé cette personne-là voulaient que je le sache. Parce que normalement, il me semble que ça serait plus subtil que ça. En tout cas, je considère que c'était pas très, très subtil. C'était carrément des questions directes à des gens que je connais. Là. C'est sûr que j'allais le savoir.
L'autre question que je me pose, c'est que quand le BIG a été créé, je me souviens avec Denis Galland, c'était, puis avec Coderre qui était le maire, c'était de dire, OK, nous autres, on enquête. Ce qui se passe en ville, les contrats, puis la construction, c'est un enjeu colossal. Et quand ça sent le criminel, on envoie ça à l'UPAC. Moi, je regarde l'UPAC des deux, trois dernières années, là, il me semble qu'il se passe pas grand-chose. Je veux bien pogner un marguillier puis un gars de commission scolaire qui joue dans la petite caisse, mais ça m'apparaît mince. Vous aimez pas la question, là, je pense.
Ben, écoutez, je vous l'ai dit, c'est sûr, je crois à l'institution, je crois à ça, l'UPAC. Je pense, l'UPAC a sa raison d'être, c'est important, là. Comme on le démontre, quand on n'est pas là, c'est là que ça arrive, fait que c'est important, oui, là, ne serait-ce que pour ça. Mais l'UPAC, bon, ils ont fait des dossiers récemment sur les passeports vaccinaux. Donc, tu sais, je pense qu'ils sont en train de modifier un peu leur plan d'action. J'ai l'impression qu'ils s'en vont eux aussi vers l'administration.
Est-ce que vous en transférez beaucoup des dossiers à l'UPAC?
Ça arrive.
Pis ça donne-tu quelque chose?
Ben, et mon Dieu. Présentement, c'est parce qu'il y a des enquêtes, fait que je peux pas vous dire si ça donne quelque chose, là, mais j'ose espérer que ça va donner quelque chose.
Vous allez faire quoi?
Ah! La question. Écoutez, c'est sûr que je suis encore animée. J'ai encore toute ma carrière, toute ma vie comme procureur puis comme inspectrice générale. J'ai toujours eu l'espèce de passion de vouloir défendre les gens, là, de vouloir défendre la société. Fait que c'est sûr que ça, c'est encore là. Fait que ça va rester. Fait que je m'en vais vers ça. Mais où je m'en vais, ça, évidemment, vous comprendrez que je vais me déposer. Je suis en train d'évaluer certaines propositions. Mais comme j'ai dit à tout le monde qui m'ont fait ces propositions-là, laissez-moi décanter. Là, je vais rester encore. Je fais la transition avec le nouvel inspecteur général qui devrait être nommé aujourd'hui. Je vais faire la transition avec lui pendant quelques semaines. Puis ensuite, je vais pouvoir regarder les offres, là, à tête reposée.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci beaucoup.
Merci pour le travail fait. Brigitte Béchop, qui est l'inspectrice générale sortante de la Ville de Montréal.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
On a appris hier en fin de journée que le Beach Club qu'on connaît sous sa forme actuelle, ça se termine au cours de l'été. L'espace aura une nouvelle vocation. Olivier Primeau est avec nous. Olivier Primeau, bonjour.
Bon matin, M. Arcand.
Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé là que c'était le dernier été?
Constance évolution. En affaires, surtout en événementiel, on le voit en ce moment. Là. Puis j'ai eu beaucoup de commentaires puis de questions hier. C'est-tu parce que tous les festivals ferment puis que t'as pas d'argent public, t'as pas de subvention? Ça fait partie des points. Mais non, quand la famille, on a investi en 2015, c'était déjà voué à faire autre chose. on a été comme surpris par le succès populaire du Beach Club. C'est un beau terrain, le Beach Club. C'est un bel endroit. Puis c'est ça. Ça fait 8 ans, 9 ans. Puis après 8, 9 ans en affaires, il faut revoir ses cartes. Puis on est chanceux. On est voté club numéro 1 au Canada depuis des années. Fait qu'on a encore une énorme notoriété là-bas. Fait qu'on en profite.
OK, mais la dernière fois que tu es venu en studio, ouais. On annonçait la vente de deux festivals. Ouais. Là, et celui-là, ben, Beach Club, c'est comme un méga festival pendant l'été. Il reste quoi comme festival? Il en reste un, je pense?
Moi, il m'en reste un. On est partenaire à Ottawa dans un gros festival qui s'appelle Escapade, qui est comme un Oceaga, mais en Ontario. Je suis partenaire avec ceux qui nous ont achetés à Montréal avec Evenco et Live Nation. Mais c'est ça, mais c'est vraiment un sujet.
C'est pas la crise des festivals.
Non, du tout, du tout. Tu sais, nous, là-bas, le terrain, c'est à nous. Tous les revenus sont à nous. C'est vraiment une question d'affaires, là, puis d'avenir. Vous allez voir dans les prochaines années où est-ce qu'on s'en va avec ce beau terrain-là. Fait qu'on commence l'année prochaine avec une nouvelle étape. Puis j'ai super hâte, ça aussi. Ça va être du gros renouveau. Ça va brasser moins, moi, à Pointe Calumet.
Bon, là, je ne sais pas dire brasser moins parce que le Beach Club, c'est le party, mais ça voulait dire des fois des individus un peu douteux, puis ça voulait dire une présence policière. Les policiers trouvaient qu'il était pratiquement à temps plein chez vous. Là.
Ils m'ont écrit hier, justement.
Pour te remercier de fermer?
Ben oui, ou on va-tu manquer d'overtime, un des deux? Fait que, on a tout le temps une très bonne entente avec les corps policiers. On s'ostinait sur une couple de factures, mais ça, c'est correct. Mais c'est sûr que le monde événementiel, c'est compliqué. Puis vous l'avez dit, là, il y a du monde des fois non recommandable, il y a du monde qui font des excès. Puis on était tout tanné de ça. C'est pas une des raisons, mais je veux dire, c'est pas la raison principale, mais ça fait partie d'une des raisons.
Est-ce que, comment je dirais ça, c'est en vieillissant un peu qu'on veut sortir des activités qui monopolisent, là, qui prennent beaucoup de temps, puis c'est de l'énergie sur un festival puis un beach club, là.
À toutes les fins de semaine. Tu sais, c'est pas juste un week-end. Ça demande énormément de préparation. Malgré les gens, des fois, ils arrivent au beach club puis ils me disent, bon, ben, t'ouvres la porte puis ça part, mais c'est vraiment pas ça, là. Tu sais, il y a des journées, on est 300, 400, 500 employés pour accueillir tout ce beau monde-là, plus les policiers, plus la ville, puis là, ça finit plus. Je suis rendu à 38 ans. Moi, notre famille, on a investi là, j'avais 29. On passe à autre chose, là. Puis je fais tranquillement, pas vite. Je vieillis en même temps que ma carrière d'entrepreneur. Puis j'aime ça. J'adore ça.
Est-ce que c'était payant, le Beach Club? Est-ce que c'était comme juste, tu sais, une dépense marketing pour vendre autre chose ultimement?
En fait, au début, on espérait que ça soit payant parce qu'on n'avait pas tout ce qui est venu avec, mais ça n'a jamais été payant. On n'a jamais fait j'aime l'expression, là, pas fait une scène là-bas. Ça nous a coûté des millions de dollars. Mais à la fin de la journée, ça nous a créé plein d'autres opportunités. Fait que je vais vous avouer que, ben, franchement, depuis 5-6 ans, c'est tout le reste qui paye pour ça. C'est l'expression un flagship, là. C'est vraiment c'est notre pancarte d'autoroute. Exactement. C'est une marque. Puis ça va continuer à être une marque dans l'avenir. Est-ce que ça va s'appeler le Beach Club? Est-ce que ça va être autre chose? Mais ça va rester dans dans notre famille.
Et le terrain, vous allez en faire quoi?
C'est ça. L'île, là, qu'on voit en ce moment va avoir un peu la même vocation. Ça va changer, là, comme je l'ai annoncé. Mais le reste, on parle depuis plusieurs années, là, de faire un beau développement. Pas immobilier puis s'en aller, là. Un peu comme l'Estérel, si les gens connaissent ça, là. Un bel hôtel. Profiter de la belle place. C'est magnifique. Si tu fréquentes pas le Beach Club en ce moment, tu peux pas comprendre à quel point c'est magnifique. Mais on a une presqu'île à 40 minutes de Montréal, là. C'est beau.
Ce qu'on appelle un resort, quoi, un aménagement.
Exactement. C'est pour ça que je dis que ça va peut-être être une première. On va voir. Je travaille là-dessus, mais ça va venir en étapes. C'est un gros, gros projet. Puis on n'est pas pressé du tout. On a beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire.
OK, mais là, l'entreprise est concentrée sur quoi? Des breuvages, l'eau?
En ce moment, pas l'eau, là, comme je vous ai expliqué la dernière fois, parce qu'on l'exploite pas, mais en fait,
mais
là,
vous pourriez l'exploiter.
Oui, exactement. Notre champ d'entreprise est vraiment diversifié. Bon, je l'ai déjà dit plein de fois, là, dans notre famille, on a des épiceries. Les breuvages, c'est beaucoup plus gros qu'on pense. Comme c'est pas une compagnie publique, comme un gourou, on peut pas voir les chiffres puis tout ça, mais on est en pleine expansion, ça fait vivre, je vous dirais que c'est 90% de nos revenus. Puis c'est sûr qu'on a les festivals, l'événementiel. On a une grosse compagnie de marketing aussi qui fait des contrats pour plein de monde. Fait que, on est occupé en masse, puis je pense juste que ça va faire changement dans notre portefeuille, ça va faire plus sérieux, puis c'est ça, c'était gros, c'était lourd à organiser, là. Justement, là, tantôt, là, à midi, on annonce un artiste qui va faire sold out, fait que, tu sais, c'est 7-8 000 personnes, c'est compliqué, là, au bout de la 1640, à Pointe Calumet, c'est pas au centre-ville, mais c'est pas, comme je l'ai dit tantôt, c'est 0-0 à cause que ça va pas bien ou quoi que ce soit.
C'est
là.
Qui l'artiste?
On va vous aller le savoir à midi.
Il est 8 heures.
Ouais, je sais, mais il est trop tôt.
OK. Mais c'est une business, quand tu dis plus sérieux, c'est quoi l'objectif ultime? C'est de devenir une entreprise cotée en bourse à un moment donné? C'est de faire des acquisitions dans l'agroalimentaire? Pensez à quoi?
Avec notre compagnie publique, c'est ça. Là, la dernière, on a annoncé là, qu'on est en acquisition d'une entreprise qui s'appelle Triani. C'est une grosse, énorme usine, en fait. Fait que tout est dans tout, hein. On produit des boissons en ce moment. Je fais ça depuis que j'ai 5 ans, du retail, là. Je veux dire, j'en ai placé des caisses de coke puis de bière là, dans les IGA. Fait que c'est mon champ d'expertise. L'événementiel, c'était vraiment pas mon champ d'expertise. Puis finalement, avec les années, ça l'est devenu. Mais on a une grosse équipe, mais c'est ça. Fait que l'entreprise cotée en bourse a beaucoup d'ambition. Puis j'ai super hâte au futur là-dessus.
La restauration, on a mis une croix là-dessus.
La dernière fois, ça en était parlé, puis ça n'a pas changé. Je vais encore au resto, mais je ne veux plus rien savoir de ça.
Pourquoi?
La même raison que la dernière fois. C'est beaucoup trop de préoccupations, puis c'était pour les revenus. En fait, c'est vraiment compliqué de faire de l'argent dans l'événementiel aussi, là, mais dans la restauration, fait que je me concentre sur qu'est-ce qui est payant.
Les coups de feu, ça a-tu aidé à dire « je sors de ce beau petit milieu »
C'est tous ces trucs-là ont aidé à dire que je sors de ce beau milieu-là.
Quelle est la leçon que Olivier Primo, entrepreneur, a appris à travers ces années? Là, tu dis là, j'ai tout le temps d'affaires. Là.
Ouais.
L'événement, la restauration, là, c'est 38 ans. Il y a pas, je dis pas des leçons, là, mais...
Ben oui, il y a des leçons à apprendre. Premièrement, je suis un entrepreneur hyperactif, là. Je pense que vous l'avez remarqué.
Donc, on confirme.
non, ce que je veux dire, je pense que la meilleure leçon dans les dernières années que j'ai appris, c'est de me concentrer vraiment où je suis vraiment, vraiment bon. Puis avec l'équipe, là, bien sûr, on a une grosse, grosse équipe. Fait tu sais, puis souvent, je sais pas si c'est ça que vous me demandez, mais le conseil, c'est vraiment ça, là. Tu sais, je suis vraiment allé partout. J'ai touché à tout. Puis là, je me ressens vraiment où je suis vraiment bon, mais en même temps, j'ai adoré faire absolument tout, malgré le fait tout ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que vous avez parlé. J'ai adoré mon expérience dans la restauration. Puis j'ai touché. Fait que je sais maintenant comment ça fonctionne. C'est coché. Fait que si jamais un jour ça revient, je vais savoir exactement quoi dire et quoi faire.
Merci beaucoup, bonne chance.
Merci à vous.
Olivier Primo, donc entrepreneur et qui est le propriétaire du Beach Club de Pointe-Calumet, dernier été dans sa forme actuelle. Parlons des élections américaines parce que on a aujourd'hui dans l'État de l'Arizona une primaire extrêmement importante. Hier, les avocats de Donald Trump ont dit, écoutez, on n'est pas capable d'aller chercher le 450 millions en garantie pour le paiement des différents jugements qui ont été rendus contre lui. Faisons le point sur toutes ces questions-là avec Charles-Philippe David, qui est en direct ce matin de Phoenix, en Arizona. Charles-Philippe, bonjour.
Bonjour, Paul. Ça promet d'être une belle journée bien occupée parce que Joe Biden aussi est en visite ici ce midi pour prononcer un discours important parce qu'il sait que l'Arizona, c'est un des 6 États vraiment pivot, vraiment important qu'il doit gagner, et il doit gagner absolument l'appui de l'électorat hispanique. Alors, c'est une deuxième visite pour le couple Biden en Arizona en, je dirais, à peu près 3 semaines.
Pourquoi l'État de l'Arizona est si important que ça, pour commencer?
Ben, parce que ça a été un État traditionnellement républicain. Pour les plus vieux d'entre nous, peut-être nous souvenons-nous d'un nom comme Barry Goldwater, qui a été longtemps le sénateur de l'Arizona, celui qui avait fait pression sur Nixon pour qu'il démissionne. C'était un État républicain, mais c'est devenu, au cours des années, en raison des changements démographiques très, très importants ici, un État de plus en plus démocrate. Et l'électorat hispanique, en particulier, a cru de manière spectaculaire dans les 10-15 dernières années, si bien que la population hispanique va surpasser celle de la population non hispanique, on va dire comme ça, dans quelques années. Alors, c'est un état crucial que les démocrates pensent qu'ils peuvent gagner et doivent gagner s'ils sont pour battre Donald Trump.
Bon, en parlant de Trump, hier, ses avocats ont dit, écoutez, on n'est pas capable d'obtenir cette garantie financière de 455 millions. On a cogné à toutes les portes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On veut gagner du temps? On veut obtenir un montant moins élevé?
Oui, un peu tout ça et plus encore, parce qu'il faut ajouter aussi, souvenez-vous, la semaine dernière, l'amende imposée par le juge à Trump pour diffamation dans la cause de Jean Carroll. Et là, vous ajoutez un autre, presque 100 millions. Donc, M. Trump est en sérieuse difficulté financière, parce que là, la marge de manœuvre est très, très mince pour lui pour se dérober de cette caution ou pour la remettre à plus tard. Il y a actuellement des procédures en cours pour faire appel de cette décision. Donc, est-ce qu'il sera possible pour l'équipe Trump de faire appel, comme dans tous les autres cas d'ailleurs, pour aller jusqu'en, imagine encore, en Cour suprême, mais cette fois de l'État de New York? Ça, ça reste à voir parce que il appert, et je suis pas juge, que dans une cause comme ça, il n'est peut-être pas possible pour lui de faire appel. Mais on va voir quelles sont les décisions là-dessus. Mais entre-temps, ce que ça veut dire, Paul, ça veut dire que, eh ben, comme pour n'importe qui d'entre nous, à ce moment-là, la justice aurait le droit, théoriquement, hein, de saisir des avoirs de Donald Trump. Mais saisir quoi exactement et en faire quoi, ça, c'est pas mal plus confus. Est-ce qu'on saisit un hôtel? Est-ce qu'on saisit une résidence? Est-ce qu'on saisit un club de golf? Est-ce que... Mais imaginez un candidat présidentiel qui fait face à de tels déboires devant la justice et devant la possibilité de se faire, subir la visite d'un huissier. C'est quand même assez incroyable.
Bon, il a profité de la journée d'hier pour revenir sur ses propos de la fin de semaine en Ohio quand il a parlé de bain de sang. Il a dit, j'ai prononcé l'expression bain de sang, mais c'était en référence à l'économie, à l'industrie automobile.
Non, quand on écoute les extraits, c'est assez clair qu'il fait référence à une défaite potentielle. Et ça a ravivé à peu près chez tout le monde la crainte, évidemment, de répéter les affreux événements du 6 janvier 2021. Et ça, c'est traumatisant pour tout le monde. Quand il prononce des mots comme ça, ça promet donc une campagne électorale et des résultats qui seront extrêmement mouvementés. Et il les multiplie d'ailleurs, ces phrases, Paul, il les multiplie, ces déclarations, et pas juste sur un bain de sang, parce qu'il a aussi annoncé du même coup, figurez-vous, qu'il aurait l'intention de pardonner les quelques 500, j'y vais de mémoire, à peu près 500, 600 individus qui ont été condamnés justement par la justice pour ce qu'ils ont perpétré comme fait et comme agression le 6 janvier 2021. Et donc, il aurait l'intention de les pardonner en évoquant le fait que ce sont des héros et des patriotes. Imaginez, ça aussi, ça rajoute une couche dans l'anxiété vraiment profonde qui se vit ici. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait le tour de beaucoup, beaucoup de gens autour du campus universitaire en plein cœur de la ville de Tempe, qui fait partie de Phoenix. Et je la note, cette crainte-là, cette anxiété-là. Et chez les électeurs indépendants, ça, c'est intéressant, les électeurs indépendants sont eux-mêmes pas mal affligés du fait qu'ils savent bien que c'est eux qui auront le choix entre Biden et Trump. Et c'est beaucoup moins clair pour eux dans quel sens ils iront voter. Parce que ces déclarations-là, justement, les effraient beaucoup. Alors, à suivre, ça va être vraiment très, 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 très dur comme campagne électorale. Ça, c'est certain.
Merci, Charles-Philippe, et bonne soirée électorale.
Merci beaucoup.
Au revoir. Charles-Philippe David, bonjour, qui nous parlait en direct de Phoenix, en Arizona.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.